Pavillon Nomade. Le direct.
Bonsoir et bienvenue sur Pavillon Nomade. La radio est née il y a 2 ans à l'hôpital psychiatrique de Malévaux, mais comme son nom l'indique, elle est nomade. Elle se déplace pour aller à la rencontre d'institutions, de personnalités ou de gens qui n'ont pas souvent la parole. Aujourd'hui, nous sommes venus en voisins pour installer notre bannière et nos micros à Casanova, nouvelle place forte culturelle de Montée, en face de la gare AOMC et à un jet de pierre du théâtre du Crochetant. La soirée veut mettre en lumière 2 auteurs qui ont chacun, à leur manière, écrit et décrit le quotidien méconnu d'ouvriers d'usine. Leur voix sera portée par le comédien Roland Vouilloux. On commence cette soirée littéraire avec Joseph Pontus, une comète dans le champ littéraire. Son premier texte, « À la ligne », sous-titré « Feuillet d'usine », est un récit autobiographique en vers libres et sans ponctuation. Publié en janvier 2019 aux éditions de la Table Ronde, il rencontre immédiatement le public et est couronné de nombreux prix. Le texte est adapté pour la scène, la bande dessinée, et est mis en musique. Mais l'auteur ne profitera pas de son succès. Il décède des suites d'un cancer en 2021, 2 ans après la parution de son ouvrage. À la ligne est un témoignage, choc, une écriture crue et poétique. L'univers s'éloigne de l'imagerie et des clichés liés aux usines depuis la Révolution industrielle. Ici, point de hauts fourneaux brûlants, de gueules noircies par le charbon. Au contraire, tout est blanc, glacial, frigorifique même, puisque Joseph Pontus est embauché comme intérimaire dans diverses usines agroalimentaires bretonnes. Pontus passe ses jours et souvent des nuits entières à découper du porc ou à mettre en rang des milliers de millions de crustacés dans l'humidité, le sang, les tripes. Et ce n'est pas parce que c'est blanc que c'est moins sordide.
Dimanche. Comme tous les dimanches soirs, je traîne un peu plus que d'habitude, que de raison. Je profite encore juste un peu, même si je sais que je le paierai d'autant plus cher au réveil, puis à l'embauche. Dimanche, jour du Seigneur. La semaine, jour des Seigneurs. Lundi. Je ne trouve pas le temps d'écrire. Trop de boulot, trop de fatigue. À la maison, le quotidien. Le ménage à faire. Quand je ne le fais pas, ça pèse sur mon ménage. Mardi. Putain de douleurs musculaires au réveil et à l'habillage. Le week-end est déjà loin. Aujourd'hui, c'est mardi, donc demain, c'est mercredi. Et donc, on aura tiré la moitié de la semaine. C'est l'éternel retour des vaches à travailler. Vaches laitières, Holstein, vaches mixtes, Montbéliard, Normande, vaches à viande, charolaises, rouges des prés, limousines, blondes d'Aquitaine. On finit dans les temps. Mercredi. Monotonie, lancinante, douce ou sordide. Rien ne change. Les mêmes gueules aux mêmes heures, le même rituel avant l'embauche, les mêmes douleurs physiques, les mêmes gestes automatiques, les mêmes vaches qui défilent encore et toujours à travailler sur cette ligne qui ne s'arrête jamais, qui ne s'arrête jamais. Le même paysage de l'usine, le même tapis mécanique, les mêmes collègues à leur place indéboulonnable et les vaches défilent, les mêmes gestes. Parfois, c'est rassurant comme un cocon. On fait sans faire, vagabondant dans ses pensées. La vraie et seule liberté est intérieure. Usine, tu n'auras pas mon âme. Je suis là et vaut bien plus que toi. Et vaut bien plus à cause de toi, grâce à toi. Je suis sur les rives de l'enfance. Pas un mort n'était encore venu obscurcir ma vie. Je suis chez grand-mère. Sa présence est chaude et éternelle. Demain, elle sera encore là. Je souris en travaillant mes vaches. Au gré des souvenirs pointe un petit malheur et voilà que la carcasse devient ennemie. Le geste pourtant automatique suscite l'effort, puis la douleur. Tout est si lourd. Les vaches, mon corps, le travail, voire ma vie. Tout oppresse dans ce lieu qui ne change pas, ne changera jamais. Ma grand-mère est morte depuis belle lurette. J'ai bientôt 40 berges. Et je moisis à travailler dans un abattoir. Le plus souvent, il n'en est rien de ces deux extrêmes. Rien ne se passe que la machine à monotonie, des vaches à travailler, et les comptes et les décomptes. On compte les heures qui restent à tirer, les minutes avant la prochaine heure, le nombre de vaches que je pousse d'un seul coup, le nombre de crochets que je prends d'une seule main, les heures que j'ai déjà travaillées dans la semaine, les rails de vaches restant à sortir. On compte sa peine, ses abattis et ses douleurs. Je compte et recompte, parce que c'est toujours comme chez Brel. Chez ces gens-là, on ne cause pas, on compte. C'est mercredi, et c'est le milieu de la semaine. J'ignore si c'est la monotonie ou les efforts répétés qui fatiguent autant, alors qu'hier et lundi, ça allait bien, bordel. Et encore 2 jours à tirer, et demain, cette foutue nouvelle journée de grève. Ça va être encore la misère. Embauche à 4 heures pour pallier le retard. Réveille 2 heures plus tôt le temps du café, de la balade avec le chien, de se rouler les clopes en avance, la route à faire. Boire un café à l'abri fumeur, le temps des rituels et de la lancinante motonomie. Jeudi. Comme prévu, le réveil pique fort, fort, fort. Comme la semaine dernière, une équipe de tâcherons supplée les titulaires habituels. Étrangement, les grévistes de la semaine dernière arrivent à l'heure de l'embauche habituelle. Les tâcherons s'éclipsent. Ça bosse mollement, comme s'ils étaient à moitié en grève, à moitié au boulot. Ils ne seront pas de retour après la pause. J'apprends par un collègue non gréviste qu'ils ont fait leurs 4 heures de travail, ce qui correspond au nombre d'heures sup faites dans la semaine, comme ça ils n'auront aucune perte de salaire, ce que j'estime particulièrement subtil. Les tâcherons reviennent. Le temps est long. Foutrement long, s'étire à l'infini. Un casque rouge passe et me demande si je peux bosser samedi. Les samedis matins travaillés ne sont jamais obligatoires, mais sont comptés pour 3 heures supplémentaires de paye, même si l'on ne bosse qu'une heure. Je réponds que oui. Et les 2 heures qui restent semblent encore plus longs après, avec un week-end à l'agonie. La fin de la journée se passe comme une fin de merde. Je pensais avoir fini du boulot. Demain, en sachant qu'aujourd'hui était la plus grosse journée, mon cul. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins, ils sont faits des manteaux. J'en suis affredonné du Carla Bruni, alors que je rêverais d'être en grève. C'est bien dire la porie de l'univers et de ses vaches sacrées. Vendredi. On donne ce qu'il nous reste de force pour terminer plus vite. Effectivement, l'histoire est pliée une grosse demi-heure avant le terme. On en profite pour traîner dans l'usine et filer un coup de main aux collègues des autres secteurs pour les avancer un peu. Le vendredi après-midi, à la maison, ça devrait être la fête, mais jamais. Je suis irritable, le mot est faible, irascible. La vendredite. En sourions-nous aujourd'hui avec mon épouse, comme une maladie qu'on saurait enfin nommer, comme si toute l'inconsciente pression accumulée et les douleurs du corps et de la fatigue accumulée, l'ennui du temps qui ne passe pas accumulé, les jours d'usine accumulés, tous les jours d'usine, tous ceux depuis mon entrée dans la machine voici plus d'1 an et ma sortie que je ne vois décidément pas venir. Le fait de devoir renquiller lundi pour une autre semaine, le fait de devoir se reposer le week-end, comme si la sempiternelle problématique qui veut que la tête tienne bon sinon le corps lâche et que le corps tienne bon sinon la tête explose. Voilà. Retour au monde des vivants. Mais j'ignore encore comment franchir ce Styx du vendredi sans payer mon obol de colère. Samedi. Une grosse heure de taf. 3 heures payées. La semaine est bien terminée. Demain, c'est dimanche. Demain, on profitera bien encore un peu de la liberté des vivants. Demain, on rechignera encore à aller au lit tôt, étant pourtant certain qu'on le payera cher lundi au réveil, puis à l'embauche. Il sera toujours temps pour une nouvelle semaine. Encore une semaine.
Il pleut, c'est pas ma faute à moi. Les carreaux de l'usine sont toujours mal lavés. Il pleut, les carreaux de l'usine, y en a beaucoup de cassés. Les filles qui vont danser ne me regardent pas, car elles s'en vont danser avec tout cela. Qui savent leur payer pour pouvoir s'amuser, des fleurs de papier ou de l'eau parfumée. Les filles qui vont danser ne me regardent pas, car elles s'en vont danser avec tout cela. Il pleut, c'est pas ma faute à moi. Les carreaux de l'usine sont toujours mal lavés. Les corridors crasseux sont les seuls que je vois. Les escaliers qui montent, ils sont toujours pour moi. Mais quand je suis seul sous les toits, avec le soleil, avec les nuages, j'entends la rue pleurer. Je vois les cheminées de la ville fumer doucement dans mon ciel à moi. La lune danse pour moi le soir. Elle danse, danse, elle danse, danse. Et son haleine immense à l'eau me caresse. Le ciel est pour moi, je m'y plonge le soir et j'y plonge ma peine. Il pleut et c'est ma faute à moi. Les carreaux de l'usine sont toujours mal lavés. Il pleut, les carreaux de l'usine. Moi, j'irai les casser.
Après À la ligne de Pontus, nous avons écouté Il pleut de Jacques Brel. Nous pouvons passer au deuxième auteur de la soirée qui, lui, est bien vivant. Il nous fait même l'amitié de sa présence ici à Casanova, de Monte, José Luis Toribio. N'est pas un inconnu dans la région. Au printemps 2015, il a séjourné 2 mois en résidence artistique au quartier culturel de l'hôpital psychiatrique de Malevo. Fils d'immigrés espagnols, né en Seine-et-Marne en 1970, José Luis Toribio a écrit « L'usine des cadavres », publié sous un pseudonyme, Cilien Larios, aux éditions Libertaires. Dans cette autofiction, il raconte 27 années d'ouvriers à la chaîne dans des usines qui fabriquent des automobiles. Puis, pour souffler un peu, José Luis s'est dit qu'il devait s'éloigner de Paris et qu'une résidence littéraire dans un hôpital psychiatrique lui ferait le plus grand bien. Il débarque à Monte au printemps 2015. Souvenez-vous, début janvier 2015, on annonce la fermeture de notre raffinerie Tamoil, José Luis Toribio est rattrapé par les luttes syndicales locales qu'il raconte dans la tour de Malévaux. José Luis recourt à nouveau à l'autofiction. Mais le lecteur attentif reconnaît les paysages de montée et sous les pseudonymes certains de ses habitants et certains hauts lieux.
Comme toutes les nuits, les songes reviennent. Au fil du temps, je m'interroge sur la part de rêve et réalité de l'existence passée. Je me promène sur un chemin de l'enfance. Après avoir heurté un pavé, mes yeux s'en trouvent. Je me retrouve dans le noir de ma chambre. La peur m'envahit. Comment descendre du lit? Il est en hauteur, mes parents dorment. J'ai école ce matin. Mais non, je ne suis plus un petit garçon. Je suis à Malévaux. Le lit est bas. Suis-je vraiment à Malévaux? Ailleurs? Mes pieds ne sentent pas le vide, ils touchent le sol très vite. Au matin, j'entends les cloches de Pâques. En fin d'après-midi, je descends en bas pour la première fois depuis mon arrivée. D'infimes gouttelettes blanches rafraîchissent mon visage. C'est vivifiant. Le villageois qui m'indique mon chemin sur le pont de bois, permettant la traversée du torrent, donne ses impressions. « Oh, votre promenade va être rapide. La dernière tombée avant le printemps est la plus rude. Vous n'êtes pas assez couvert, l'ami. Si j'étais vous, le château serait visité un autre jour. » Je ne me fais pas prier pour suivre ses bons conseils. L'ascension jusqu'à l'hôpital se fait sous de gros flocons. Bien m'a pris de partir avec la casquette irlandaise. À l'horizon, sous les bourrasques qui s'intensifient, je ne vois plus que de la neige à perte de vue. Du blanc. Au matin, la neige a disparu. Elle ne s'aperçoit plus que dans les montagnes illuminant l'horizon magique. Elsa fréquente pas plus les églises que moi. Je suis devant celle du domaine de Malévaux. Le rituel débute. Je prends place. L'abbé Lamargelle, assisté de Saint Nicolas, commence le cérémonial. Il donne la parole divine. Intérieurement me vient la messe de l'athée. Dieu semble pas beaucoup écouter celle du monde. Depuis le temps qu'il a annoncé son royaume, les guerres se comptent plus. Il y a plus d'égaux que d'autres. Des qui volent plus, des qui mentent plus, des qui assassinent plus. Tout cela en ton nom. Une fois l'oraison achevée, il place à celle de l'abbé Lamargelle. Il promet le bonheur universel. Pour cela, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Le spectacle servi est pas pire que celui des partis politiques. Qui sont pas pires voleurs, massacreurs. Laissez faire, travaillez bien, faites des enfants, aimez votre patrie, on s'occupe de tout. Les arbres, encore dépouillés de leurs feuilles, attestent des dernières froidures. Ces dernières me dirigent malgré moi vers le soleil. Cette fois, sur le pont de bois, je remarque un pic byzantin sur sa toiture. En observant plus loin, mon attention est attirée par une voiture des Brigades du Tigre. Je cours l'admirer de plus près. Je suis un fan des années 1900, tout ce qui s'y rapporte compris. Un homme, ne n'entend passer, rapplique. Sa chevelure blanche est longue. Ça se voit illico, malgré son âge avancé, qu'il a toute sa vivacité présente. Malgré son air tout soupçonneux, il me lance d'entrée. Elle roule comme au premier jour. J'en prends soin comme feu ma maîtresse. Très vite, je rassure le papy alerte sur mes bonnes intentions. Soulagé de mon bref passage en Suisse, il me prouve encore sa vivacité d'esprit. Je parie que vous venez d'en haut. Voyant mon émerveillement croissant pour sa tire, il me propose de m'y ramener. C'est sur ma route. Oh, je ne me fais pas prier. Les préliminaires passés, la conversation dérive sur la raffinerie. L'ancien s'épanche, il peste contre le monde moderne. La décadence européenne ne nous touchera pas. Les montagnes valaisannes sont éternelles. Leurs habitants sont en granit, comme les statues du château. C'est pas ici qu'y viendront les Chinois. Ils peuvent se lever de bonne heure pour toucher notre savoir-faire dans la chimie. Avec Pascal et ses amis de la raffinerie, je mange au restaurant Le Rocher de Cancale. Les hors-d'œuvre passés, la conversation vient vite sur la fermeture. Le passé me rattrape inéluctablement. Je casse le mythe de la lutte de classe dans mon pays, bien que la violence soit là. Au bout du compte, c'est pareil en France. Les syndicats sont là pour que la colère soit au juste canalisée. C'est leur rôle. L'escroquerie crapuleuse vient des sectes trotskistes. Elle manipule les ouvriers dans ce but. Les discours révolutionnaires qu'elles tiennent sont purement électoraux, garantis 0,5% de voix. Pascal confirme mes dires. À la lecture de ton roman, la première chose qui frappe, c'est sa violence. Elle se perçoit à chaque page. J'étaye ses propos. Des personnes vont perdre leur emploi. Elles se demandent de quoi sera fait l'avenir. Les plus conscientes voient que les engagements politiques de toute une vie profitent aux caciques politicards ouvriers. Comment pas être violent dans ces cas ? Dans mon livre, j'ai tout raconté tel quel. Rien n'a été édulcoré. Si c'était pas vrai, ce serait crapuleux. En discutant avec le lecteur contradicteur qui intervient dans le récit comme personnage à part entière, j'ai mis mon texte en danger. Ma seule concession, le style. Les autres affadissent tout. Ils veulent pas troubler, déranger, montrer les magouilles des syndicats. Comment ils manipulent les grévistes. Oh là là, l'ouvrier est digne. Il se bat dignement, tout ça raconté sur du papier micelle. L'ouvrier est pas digne du tout. Il se bat en mettant sa peau sur la table, gueulant sa violence. Les impressionnistes mettaient leur cam pour restituer ce qu'ils voyaient. Moi, j'ai fait pareil. Des lecteurs de l'usine des cadavres ayant vécu les événements m'ont remercié de les avoir restitués. Des syndicalistes ont reconnu le côté instructif du roman. Mon principal péché d'orgueil, le style. Il est décelé par les amoureux de la littérature, profane au monde prolétarien.
Nous venons d'entendre un extrait de La Tour de Malévo, écrit à Monté en 2015. Nous allons passer à l'usine Névrose d'une grève oubliée, publiée le mois passé et arrivé, on va la prendre, aujourd'hui ou hier en Suisse. Ce livre est édité par les éditions La Manufacture de Livres. Dans celui-ci, José-Louis Storibio revient sur les luttes syndicales. Porté par une écriture incisive, l'usine interroge notre rapport au travail et aux engagements collectifs. José-Louis dresse le portrait d'un monde ouvrier en déliquescence. Son récit est à la croisée de l'intime et du politique, où la fragmentation du mouvement ouvrier et l'usure des engagements militants sont racontés sans complaisance. La langue est âpre, rude. Attention les oreilles.
Loi de l'éternel retour. Nous revoilà devant le salon de l'auto, comme 2 ans en arrière. Je garde un bon souvenir de l'invasion d'il y a 2 ans, la manière dont on est rentré. Après que les anards ont commencé à enjamber les barrières, les bourgs voulaient nous empêcher d'y mettre les pieds au salon. Autre fait marquant, avoir vu des ouvriers de Sochaux, usine principale du groupe, vider leurs sacs d'années d'exploitation devant les stands de la grande famille en criant « Sans nous, pas de bagnole! Sans nous, pas de bagnole !» Heureusement qu'ils étaient là, les libertaires. Les syndicats avaient l'intention de nous balader en manifestation dans les terrains vagues plus ou moins sordides des alentours du salon. Tout était prévu. Après, on rebroussait chemin devant les CRS. Plus d'un aurait été frustré. Grâce aux acrates, les ouvriers s'étaient fait entendre devant tous ces marquis, ces ladies, ces grandes dames, à qui l'on fait croire que les ouvriers, ça n'existe plus. C'est toujours bon de montrer le contraire. Cette fois, les bouleversements viennent d'ailleurs. L'entrée est gardée par des CRS beaucoup plus nombreux. À l'extérieur, les chupeaux brassards rouges sont casqués, bottés, matraqués de même. L'appareil répressif mis en place par les trotskistes ne sert pas à aider les anarches qui cherchent à briser le cordon de l'entrée. Il est tout juste là pour protéger les orateurs. Joseph Sorel en tête. Ils débitent leur discours convenu devant les caméras, il y a pratiquement que les télés qui écoutent ce coup-ci. Pour le reste, l'attention des quelques milliers de présents se porte en priorité sur la porte d'entrée. Les anards marginaux de la politique et autres étiquetés font le forcing pour un passage. Ça serait pas trop que les choupeaux de lutte ouvrière viennent leur donner un coup de main. À quelques dizaines de plus, la digue demanderait qu'à céder. En plus de la pluie du ciel, une giclée de barrières, un remake de mai 68 avec pavé décelé. Ça danse, ça valdingue, pire qu'au quartier latin. Un sacré balai ornementé par les lacrymogènes lancés par les bourgs. La grille va céder, les renforts arrivent toujours pas. La garde prétorienne encercle toujours les orateurs de choc pour les protéger. Sorel sort une grande maxime politique se prêtant à ces graves circonstances. Les ouvriers sont dignes, ils sont pas là pour casser. Un métallo du Nord venu chercher du renfort répond à ce grand leader ouvrier. « T'es là pourquoi ? Pour te faire voir ? Si tu prêtes pas main forte, rentre chez toi. » Entendant ça, les choupeaux sortent les matraques. Avant de repartir au combat énervé, le ch'ti gueule plein gosier. « Ce qui vous manque, c'est un chef avec de l'audace, qui va vers le danger, pas vers les télés. » La grille commence à plier sous le poids des assaillants. Quelques centimètres de plus, la victoire est là. Manque de peau, les renforts qui arrivent, c'est en gendarme. Les gaz lacrymogènes balancent et font reculer. Une fois que les assaillants aspergent le flotte de visages, l'assaut repart sous une pluie de plus en plus battante, le tonnerre éclatant plus. Ça calme pas, au contraire. Les chefs trotskistes en profitent pour se réfugier dans le camion balai, escorté par leur garde prétorienne. Les trotskistes penseurs du prolétariat sortiront indemnes de ces aventures. Encore une fois, la révolution est protégée. Si ça rentre, malgré tout, au salon de l'auto, le bénéfice politique sera pour eux, gagnant de tous côtés. Les hommes d'action sont rarement de grands baratineurs devant caméra et l'éternel. Il pleut de plus en plus fort, toujours pas que du ciel. Hein. Les CRS sortent leurs boucliers anti-atomiques. Une pluie d'ustensiles de tout genre s'abat sur eux. Ils tombent des trompes, des poubelles, cafetières, casseroles, bidets. Une dame patronesse leur sert même une sacrée omelette norvégienne avec des œufs pourris. En plus des tonnerres d'objets, le tonnerre du ciel s'abat. La fumée des fumigènes, lacrymogènes, pétards encerclent la cour des miracles du parvis. Nous revoilà revenus au temps du roi Krogold, avec un bélier. L'assaut de la grille du château est donné. Bang, bang, de plus en plus fort. Le déluge là-haut redouble, l'apocalypse est là. Le temps d'une fin de matinée, ça se dérègle les siècles. 2 ans en arrière, 2 ans en avant, 2000 ans en avant, 700 ans en arrière. La loi de l'éternel retour n'a pas de règle. Avec les généraux qu'on a, le retour à l'usine est d'une tristesse pleine de désolation. La réalité sera triste si les étiquetés remettent pas ça. La police de la pensée tourne des heures sur les chaînes pour dire « c'est des gauchistes, des irresponsables, ceux qui voulaient franchir les barrières, qui se sont castagnés avec les gendarmes l'autre jour devant les grilles du salon de l'auto. » Bien sûr que si on passait une fois la grille franchie, c'était pas pour prendre des photos. Le dénigrement de lutte ouvrière pour ceux qui ont rêvé n'a plus de limite. Ça vire au cauchemar. La réalité dans les ateliers est plus triste que prévu. La désolation aussi.
Cet intermède mexicain nous permet de quitter les usines parisiennes d'automobiles pour rejoindre Barcelonnette. Barcelonnette est un gros bourg des Alpes de Haute-Provence à la frontière italienne. La ville a connu durant un siècle, entre 1850 et 1950, une forte émigration vers le Mexique. On trouve ainsi aux abords de la ville plusieurs maisons ou villas luxueuses érigées par des émigrants au Mexique. Revenus au pays, fortune faite. Chaque année, sur place, ont lieu des fêtes mexicaines. Donde está Barcelonette a été publié aux éditions Gore des Alpes au printemps. Le roman raconte le destin de Juan, un immigré espagnol réfugié dans les Hautes-Alpes. Juan est un travesti, fou de cinéma, qui préfère les paillettes et les jupons au travail manuel. L'extrait que nous allons écouter a été écrit à quatre mains par José Luis Toribio et moi-même. Il se passe dans une usine de chocolat à Barcelonnette. Choco Fritz réunit le meilleur cacao mexicain à la crème de la crème du lait des Alpes, disait la publicité.
Juan a suivi le conseil d'Irma Birnenstein. Il se rend en tongs et itsy bikini chez Choco Fritz qui l'embauche sur le champ. Comme la responsable des ressources humaines est absente, on lui propose de signer le contrat le lendemain. Il a débarqué à 8h du matin à l'usine. 10 minutes plus tard, il porte la combinaison standard, un bleu de travail brun chocolat, le dos barré du logo de Choco Fritz, dans sa poche les clés d'un logement dans un HLM, rue du 8 mai 1945, numéro 13, au troisième étage, porte gauche. Soyons précis. La vie de Juan est un jeu de plateau entre hâte-toi lentement et le Monopoly. Meurtrier, déserteur, prisonnier d'un infâme, héros pour paparazzi, dame de compagnie, le voilà devenu prolétaire en brin de travail en glissant une échelle. Il hérite des rôles au hasard, saute d'une case à l'autre en passant par la prison. Il y a un quart d'heure, il était encore une starlette monégasque et le voici ouvrier locataire sans avoir rencontré le directeur ni la chef du personnel et des achats, sans avoir signé de contrat, sans être passé par le start. Première journée de chagrin, nouvel enfermement. L'odeur du cacao le dégoûte. Le bruit des machines, pire que celui des tambours de Calanda. Tac, plouc. Juan est affecté au poste B23. Le chocolat arrive dans des moules en plastique, ça déboule en continu. Des marées de moules, mais pas de la mer, les moules. Des chaînes de production, en matière plastique, les moules. Tac, plouc, floc. Tac, plouc, floc. Du chocolat à l'intérieur des moules, tac, plouc, floc. La tâche paraît simple, démouler et bavurer. Les copeaux de cacao s'accumulent, tac, plouc, floc. Tac, plouc, floc. C'est tout dire, hein. Ouvrir les moules en plastique. Après prendre les santons de Provence en chocolat, ils sont à l'intérieur. Bien fixer les santons. Les retirer avec délicatesse, si tu les brises, pénalité sur la paye. Tac, plouc, floc. Tac, plouc, floc. Ensuite, faut les ébavurer en retirant la matière superflue. Si c'est fait brusquement, hein, ça casse. Sanction, idem. Tac, plouc, floc. Faut prendre le rythme. Tac, plouc, floc. Aliénation du travail à la chaîne, 2 heures durant, tac, plouc, floc. La délivrance quand ça stoppe, 10 minutes de pause chocolatée, ça redémarre, tac, plouc, floc, tac, plouc, floc. L'opération s'effectue avec des mains gantées. Elles transpirent les mains. Pas que les mains qui goûtent niveau sueur. Pas que les paluches, hein. La transpiration parle, perle sur le visage. Ça ruisselle sur le chocolat. Va en manger après ça. Pour finir, les ranger dans des boîtes de 10. Une demi-seconde de rêverie, tu coules. La chaîne sature de moules en plastoc. L'alarme sonne. Tring, tring, tring. Le petit chef déboule, dardard, qu'il déboule, le petit chef, genre contremaître à puer l'ail. Alors, fainéant. Il n'aime pas transpirer, le petit chef. Il est énervé de devoir faire autre chose que petit chef. Alors, il doit donner un coup de main pour désengorger la chaîne. Ça l'énerve, il fumine. L'éternel report pour un tour d'horloge, 8 heures que ça va durer. avec deux pauses, une de 10 minutes le matin, une autre de 30 minutes pour le repas à la cantine. De quoi regretter la vie de starlet sur le bateau. Monte Carlo, les chansonnettes, la chaîne stop à nouveau. Tring, tring, tring. Le petit chef tout furibond, tout postillonnant, tout fielleux revient. Et toi, le nouveau, tu vas marner. C'est moi qui te le dis. Juan est un ouvrier aristocrate, on ne lui cause pas comme ça. D'abord, on me dit vous. On n'a pas gardé les chèvres ensemble, que je sache. Alors le petit singe explose. Tu te prends pour qui ? Les moules s'entassent, beaucoup se retrouvent à même le sol. Juan gifle le petit chef. Le petit chef attrape Juan par les cheveux. La chaîne s'arrête. Juan est ceinturé par le gérant de service de sécurité. Un malabar deux fois plus grand et deux fois plus lourd que lui. Genre Rasputin. Juan ne fait pas le poids. Il ne touche pas pied à terre. Il piate dans le vide comme l'enfant caractériel qui pique une crise au rayon des bonbons. Alors le petit chef prend un téléphone, appelle le contremaître. Juan est convoqué à l'étage supérieur. Le géant de la sécurité le porte sous le bras comme une oie qu'on ramène du marché. Et le petit chef, poil dans la main, va marner le temps de le remplacer. Tac, plouc, floc. Tac, plouc, floc. Voilà maintenant Juan de retour à la salle des commandes. Il trifouille les boutons, il relance la chaîne de production. Tac, plouc, floc. Les moules de chocolat vitesse grand V. Tac, plouc, floc. Ça transpire, ça turbine à fond les ballons. Tac, plouc, floc. Tac, plouc, floc. Juan emprunte le porte-voix de Mario, syndicaliste en chef de la CGT. Il hurle dans le mégaphone. Exploitation maximum. Productivisme sauvage. Aliénation du travail plein régime. Tac, plouc, floc. L'usine est à nous. L'usine est à nous. Faut produire. Faut produire davantage. Au bout de la nuit. Au bout de... Le rythme s'accélère encore. Tac, plouc, floc. Tac, plouc, floc. Tac, plouc, floc, les turbines deviennent folles. Multipliées par 5, 6, 10, 20, les 100 tons de chocolat sortent par centaines, par milliers, c'est du délire. Un rythme démentiel, les mariachis qui s'essoufflent à accompagner la cadence. Plus vite, hurle Juan d'une passerelle qui surplombe la grande cuve. Et les moules tournent sur la chaîne comme des voitures folles d'un circuit miniature. Et ce qui devait arriver, arriva. Les 100 tons sont éjectés du système par la force centrifuge. Ils se prennent dans les dents de la crémaillère. Le moteur poursuit son travail et emporte des pièces métalliques qui se tordent et bloquent le système. Les feux clignotent et une alarme retentit. Les deux orchestres s'arrêtent de concert. Un ouvrier coupe l'alarme. Silence. Juan initie un striptease. Sous son costume, il porte son itsy bitsy teeny weeny tout petit bikini rouge à pois jaunes. Les couleurs de Choco Fritz. C'est le bikini des grandes occasions. Déhanchement parfait, geste souple, on dirait un serpent qui danse au bout d'un ballon. Il a la liberté et l'aisance de ceux qui ont une île pour refuge et des ailes pour y aller. La foule est charmée, hypnotisée, aussi bien les hommes que les femmes, hein, que les autres. Les Chippendales peuvent aller se rhabiller. Juan pose un doigt sur sa bouche, le silence absolu. Les mariachis posent doucement leur instrument à terre. On n'entend plus que le plouc, floc, plouc, floc, plouc, floc, plouc, floc, plouc, floc, des cuves de chocolat surchauffées. Plouc, floc, plouc, floc, plouc, floc, 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 floc. Attente anxieuse ou réjouie. Et il parle à voix basse. Et c'est pas du chocolat qu'ils veulent. Non, mais c'est pas notre chocolat, mais nos doigts, nos bras, le capitalisme déchiquette. Ce n'est pas du beurre de cacao qui rentre dans la chaîne, mais la chair à saucisse de l'exploitation, hein, la chair à canon de nos enfants. Ils se nourrissent des héros morts dans la guerre. Le capitalisme est anthropophage. Il nous tue et se nourrit des victimes. Résistance, résistance, non aux fascistes, non pasaran, non pasaran. Juan est acclamé. Sa double nature, ni homme ni femme, est reconnue et acceptée. Oh, il vit le plus incroyable des coming out. Celui-ci lui monte à la tête, il est complètement exalté. Il a 33 ans, il écarte les bras et fait le saut de l'ange et plonge dans la vasque de chocolat en ébullition et il se brise la nuque contre le fond de la cuve. On le repêche et dépose le corps sur une civière à l'extérieur dans un silence de mort. Le chocolat durcit rapidement à l'air frais de la montagne. Juan est porté en sombrero de ce chocolat mexicain à l'amertume divine. Il est accompagné par tout le village, le cœur lourd. La foule silencieuse avance au rythme d'une marche funèbre, jouée par les deux ensembles de mariachis. Juan, immobile dans son sarcophage de chocolat, est ramené à la sapinière. Le cortège traverse Barcelonnette précédé du drapeau rouge et noir de la CNT. Marthe, sa femme, est sur le perron. Elle ouvre grand l'œil. Xolo, le chien, se met à pleurer.
Merci Roland pour ces lectures. Je rappelle que l'on peut vous voir sur scène au Théâtre du Crochetant les 4, 5, 6, 7 et 8 novembre dans Le Bizarre de Fabrice Melchior, mise en scène de Jean-Yves Ruff. Avant d'accueillir Blaise Caron et José Luis Toribio pour la deuxième partie de cette soirée, nous allons écouter une composition de John Lennon, interprétée ici en public par Marianne Faithfull.
As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Hit you at school. They hate you if you're clever, and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to me. When they torture and scare you for 20 odd years, but you really can't function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be.
Après Working Class Heroes de Marianne Faithfull, nous accueillons sur cette table deux héros de la classe ouvrière. Le syndicaliste Blaise Caron, qui se nomme Pascal dans le roman La Tour de Malevaux, et l'écrivain prolétaire José Luis Toribio. Alors juste signaler, José a quitté l'école en deuxième année de CAP Mécanique Générale. Entre ses 16 et 21 ans, il alterne des stages et des missions d'intérim, mais il passe son temps à lire des classiques de Balzac à Céline, en passant par Proust ou Cervantes, en version originale. José Luis développe dans les cinémas du quartier une cinéphilie commencée enfant devant sa télé. L'amour du cinéma et de la littérature ne le quittera plus. Alors, José, bienvenue, merci d'avoir fait ce voyage.
Merci, bonjour, bonsoir, plutôt.
Vous avez compris que quand il est venu, il y a 10 ans, la grève, il y avait cette manifestation et ces grèves chez Tamoil. Je l'ai présenté au syndicaliste Blaise Caron et c'est lui qui va conduire cet entretien.
Merci Gabriel. José Luis, a priori, rien dans ton parcours te prédestinait à écrire. Quel a été l'élément déclencheur ?
Ben, l'élément déclencheur, c'est quand j'ai vu que l'usine d'Aulnay allait fermer. En 2000, que je dise pas de bêtises, 2009, j'étais en train de tourner au montage. Je travaillais au ferrage, mais l'usine d'Aulnay était immense. Donc pour se déplacer d'un atelier à l'autre, je prenais un vélo. Et comme à l'époque, j'étais délégué du personnel, j'avais des heures de délégation. Et j'étais en délégation, j'avais pris un vélo. Et j'avais été rendre visite à un ami au montage pour voir les impressions sur les chaînes et prendre des revendications. Et j'étais tombé sur un syndicaliste du CE, comité d'établissement, qui sortait de la réunion du CE. Il m'avait donné les chiffres des départs volontaires dans l'usine. Et quand j'ai vu le nombre de départs volontaires qu'il y avait dans l'usine, je me suis dit, l'usine, elle va pas durer longtemps, ils vont bientôt la fermer. Et après, quand j'ai commencé à voir les réactions qu'il y avait sur les chaînes, j'ai commencé à noter les impressions. Parce que c'était quand même assez cocasse. Il y a des gens qui parlaient de mettre le feu à l'usine, de tout casser, d'essayer d'obtenir le maximum d'indemnités pour les licenciements. Et c'est là où je me suis dit que là, j'avais quand même matière à écrire un livre. Et vous me dites si je suis trop long, par exemple, excusez-moi, Gabriel, et je peux peut-être en rajouter un peu plus. Vas-y. Pardon, c'est Blaise, pardon, excuse-moi. J'ai pas trop l'habitude, ça va venir.
Ok, merci Gabriel. Merci Cilien. Parce que moi, je l'appelle Cilien, je l'ai connu toujours sous le nom de Cilien. Pourquoi tu as choisi d'écrire tes premiers livres sous un pseudonyme ?
Eh bien, parce que quand j'ai publié L'usine des cadavres aux éditions Libertaires, j'étais encore salarié de l'usine d'Aulnay, après de Saint-Ouen, après la grève. Donc c'est par confort, même si tout le monde a deviné que c'était moi l'auteur du livre. Avec les extraits qui ont été lus, je pense que ça n'a pas dû plaire à beaucoup de monde. Donc c'est pour ça qu'on m'a fait choisir un pseudonyme.
Et pourquoi Cilien Larios ?
Cilien, c'est un personnage de Jean-Pierre Melville, d'un film de Jean-Pierre Melville qui s'appelle Le Doulos. J'en profite d'ailleurs pour saluer Rui Noguera, qui habite en Suisse, qui est un fan de Jean-Pierre Melville comme moi, j'ai donc pris le pseudonyme de Cilien par rapport au film de Jean-Pierre Melville où Belmondo il s'appelle Cilien. Et c'est quelqu'un, on ne sait pas si c'est un flic, si c'est un voyou. Et il distribue les plats dans le film. Par exemple, c'est lui qui fait l'action du film comme Arlequin. Et l'ambition que j'avais en écrivant mes livres, que ça soit La Tour de Malévo ou l'usine des cadavres, c'est que le narrateur distribue les plats au reste des protagonistes. Il prend les confidences comme Belmondo dans le film de Jean-Pierre Melville. Et après, il distribue les plats, il essaye de faire l'action, d'amener son grain de sel contre les rouages de la condition humaine qui vont s'abattre sur le destin ouvrier. Une usine qui va fermer, c'est pas rien. Donc il faut quand même qu'il y ait des arlequins, des jokers, des personnes qui essayent d'impulser des grains de folie. Et ce qui l'a aidé, c'est qu'il n'a pas été le seul. Ce que dans mes romans, les marginaux, les étiquetés, ils existent vraiment et ils m'ont aidé à rédiger le bouquin et à recueillir des témoignages sur les grèves qu'il y a eu dans l'usine et sur l'histoire, par exemple, les grèves de 82.
Et pourquoi Larios ?
C'est le gin, le GIN, la boisson alcoolisée. C'est la boisson alcoolisée en Espagne. Du gin, c'est la marque Larios. Et comme j'aimais bien les Cuba Libre, c'est pour ça que j'ai pris le pseudonyme de Larios.
Et pourquoi tu as changé maintenant ? Pourquoi tu travailles plus sous pseudonyme ?
Eh ben, mon nouvel éditeur de la manufacture de livres, il m'a dit que Cilien Larios, ça faisait pas un nom ouvrier. Et que là, je crois que José Luis Toribio, pour défendre mon livre, c'est ce qu'il y a de mieux. Là, je suis vraiment aux premières loges parmi vous et partout où je serai invité pour défendre l'usine. Donc j'ai l'ambition avec ce livre que le lecteur y voit qu'est-ce que c'est qu'un monde qui est en train de disparaître en France et peut-être en Suisse. Le lecteur y verra comment c'était le travail à la chaîne en direct. C'est écrit au présent, les descriptions, elles sont là. Là, il y a eu la description de quand on a essayé de rentrer au salon de l'auto de manière un peu fantastique, mais il y a aussi des descriptions du travail à la chaîne en réalité, comment ça se passe, les gestes répétitifs. Et pour ceux qui connaissent bien sûr le classique de Charlie Chaplin, ils verront que rien n'a changé sous le soleil depuis.
Mais à ce propos, tu as parlé de tes collègues. Est-ce que tu as parlé à tes collègues de ton projet de livre ? Et est-ce que certains d'entre eux l'ont lu ? Quelles ont été leurs réactions ?
Il y en a quelques-uns qui l'ont lu, qui ont été très contents. D'ailleurs, l'usine, certains l'ont déjà acheté, l'ont eu en avant-première ou l'ont acheté, et j'ai eu des bons retours. Et pour quand je rédigeais l'usine des cadavres, c'est un peu le frère aîné de l'usine. Il y avait des personnes, des collègues de boulot qui m'apportaient des notes de ce qui se passait dans les ateliers, parce que je suis quand même un petit homme, je ne peux pas savoir ce qui se passe dans la totalité de l'usine. Donc ils me rapportaient qu'est-ce qui s'était dit dans tel atelier pendant un piquet de grève, et je le retranscrivais dans le livre.
Ok, merci. À la lecture de l'usine des cadavres, et comme on a pu l'entendre tout à l'heure dans la lecture, nous pouvons constater que tu es très très critique avec les appareils syndicaux. Quels sont tes rapports avec le syndicalisme et les syndicats ? Quel regard portes-tu sur leurs actions actuelles, comme les journées de mobilisation du 18 septembre, par exemple ?
Le regard que je porte, c'est que j'espère que les syndicats vont redevenir comme ils étaient avant. Par exemple, au temps de le Havre qui lui faisait vraiment un vrai syndicalisme anarcho-syndicaliste, et Durand, j'ai oublié son prénom, il y a eu une pièce de théâtre qui a été écrite sur Boulevard Durand. Lui, il n'avait pas d'heure de délégation, il faisait ça sur son temps libre, et je voudrais que le syndicalisme soit pareil. Et maintenant, les journées d'action en France, je pense que malheureusement, il n'y a pas assez de monde. J'espère qu'il y aura un réveil de la population, mais pour l'instant, il n'y a malheureusement pas assez de monde qui manifeste pour faire plier le pouvoir.
Ouais, d'ici, on regarde ça plutôt avec gourmandise, hein, parce que le jour où en Suisse, on aura le dixième des gens qui sortent comme en France, on serait vraiment extrêmement, extrêmement satisfait. En lisant l'usine des cadavres, notamment, on peut constater que tu as deux passions, la littérature et le cinéma. Peux-tu nous dire comment sont nées ces passions et comment tu les entretiens ?
C'est depuis ma tendre enfance, ma maman c'était déjà une cinéphile. Elle connaissait toutes les stars du cinéma américain des années de Rudolph Valentino jusqu'à Robert Redford. Donc quand les films y passaient à la Ferté-Gaucher dans notre télé noir et blanc, ils me disaient cette telle personne, c'est Burt Lancaster, telle personne, c'est Elizabeth Taylor, telle personne, c'est John Wayne, telle personne, c'est Richard Widmark ou Lana Turner, et m'a transmis l'amour du cinéma comme ça. Et elle m'a aussi transmis l'amour de la littérature. Quand j'étais petit, même si j'étais un cancre à l'école, elle me faisait lire des livres. Et je prenais même dans les CDI, je ne sais pas si les bibliothèques municipales, des bouquins, par exemple, comme Les Misérables, en bibliothèque verte, et je les dévorais. Et j'étais un cancre à l'école, mais en rédaction, j'ai toujours eu 15 sur 20, voire même plus.
Ah, super. OK. On a pu voir des critiques dans Le Canard enchaîné de tes publications. C'est vraiment pas banal, hein. Il faut déjà avoir le niveau pour avoir des critiques dans Le Canard enchaîné. Quels sont tes rapports avec le microcosme littéraire parisien ?
Ça vient du cinéma. Quand j'étais à Saint-Ouen, quand je suis arrivé à Saint-Ouen après la fermeture d'Aulnay, ils étaient en train de tourner un documentaire sur un film à Saint-Ouen, et j'avais été engueulé les réalisateurs en leur demandant qu'est-ce qu'ils faisaient là. Ils m'ont dit qu'ils tournaient un film. Je leur ai parlé du film de Louis Malle, qui s'appelle « Humain trop humain ». Ils m'ont dit qu'ils voulaient faire le même procédé. Et quand ils m'ont dit qu'ils tournaient un film pour le cinéma et pas pour la télévision, ils ont eu mon intérêt. Donc après, je les saluais. Et un jour, ils sont venus me demander de participer au film. Moi, je leur ai dit « Mais je viens d'arriver dans l'usine. Prenez plutôt des anciens de l'usine de Saint-Ouen. » Ils m'ont dit qu'il leur fallait un regard neuf. Donc j'ai participé au film. Après, ils m'ont invité à l'avant-première. Et à l'avant-première, j'ai rencontré un journaliste qui est devenu mon ami, qui s'appelle Philippe Persson, et il m'a introduit dans le Salon Botul. C'est un salon littéraire français après avoir lu L'usine des cadavres. D'ailleurs, je tiens à dire que le Salon Botul, l'association des Amis de Botul, fête ses 30 ans. Et c'est une association que Bernard-Henri Lévy, enfin le nom de Botul, Bernard-Henri Lévy connaît bien ce nom. C'est un philosophe imaginaire, et Monsieur Bernard-Henri Lévy, il a écrit un bouquin sur la philosophie, en citant Jean-Baptiste Botul. Et ça a bien fait rire, ça a bien fait rire tout le monde en France. Et d'après ce qu'on m'a dit avant, M. Bernard-Henri Lévy, il tirait à 100 000 exemplaires. Maintenant, il tire à quelques milliers d'exemplaires. Il a perdu toute crédibilité.
OK, merci beaucoup. Par rapport à ta résidence à Malévo, dont on a parlé tout à l'heure, j'aurais deux questions. C'est là où tu as écrit La Tour de Malévo. Comment tu es arrivé à cette résidence et que t'a-t-elle apporté?
Si je suis arrivé à cette résidence, je suis content que vous me posiez cette question. Parce que ce qui m'a lancé dans l'écriture, c'était quand j'ai vu que l'usine d'Aulnay allait fermer. Mais c'est aussi parce que je correspondais avec une sociologue suissesse de Lausanne qui s'appelle Claudia Dubuis. Je correspondais avec elle et je lui racontais les histoires de l'usine, mon arrivée à l'usine, ce qui se passait dans l'usine. Je lui écrivais des longs mails. Et un jour, elle m'a écrit en me disant « J'espère que tu gardes les mails que tu m'envoies. » Parce que moi, au bout d'un moment, ma boîte mail est saturée, je les efface. Et c'est là que je me suis dit, mais heureusement que je les ai gardés, parce que là, j'ai matière à continuer la rédaction de mon roman.
Ah, ok. On remarque une très grande différence de style entre l'usine des cadavres et la tour de Malévo. Ton écriture paraît beaucoup plus posée, avec un style moins haletant dans la tour de Malévo. On te sent moins dans l'urgence. Est-ce qu'il y a des éléments de ton parcours personnel et ou de contexte de la résidence qui peuvent expliquer cette différence de style?
Ben, c'est simple, quand je suis arrivé à Malévo, c'était quand même l'apaisement. Quelqu'un qui est dans une usine où il y a des cadences infernales, où il y a des luttes intestines dans les syndicats, on sait pas si on va pas perdre son travail, il y a de la violence physique et verbale, on atterrit quand même dans les montagnes suisses, on peut quand même se poser, ça m'a permis de souffler. Et j'étais vraiment heureux d'être à Malévo. Les deux mois que j'ai passé à Malévo et à Monté, j'étais vraiment heureux. Et j'étais heureux tous les matins de me lever à 8h du matin pour aller rédiger le texte de la tour de Malévo et de le travailler. Et là, j'étais vraiment dans l'apaisement. Mais malgré tout, il y a quand même des cauchemars, des réminiscences du passé qui sont mis. Mais le texte, il est vraiment écrit dans la douceur.
Ok, merci. Avec Pontus, vous écrivez les deux sur votre travail, sur la dureté, la pénibilité du travail, le non-sens de votre travail. Vous avez les deux la même vision de l'usine. C'est un lieu des morts où se trouvent les cadavres et la vie, les vivants sont à l'extérieur, hors du travail. Cependant, votre démarche est complètement différente. On a l'impression que Pontus cherche à sublimer son travail et à le transcender par la poésie pour ne pas sombrer dans la folie et l'aliénation la plus totale. Il arrive à s'en distancer. Il dit par exemple « La vraie liberté est extérieure à l'usine » ou « Usine, tu n'auras pas mon âme ». Il manie également l'ironie lorsqu'il dit par exemple « Pas de mépris pour les non-ouvriers » ou lorsqu'il parle à son chien. On a par contre l'impression que toi, tu es complètement absorbé par ton travail, que tu y trouves moins d'échappatoire ou plutôt que ton échappatoire, c'est l'écriture. Partages-tu cette manière de voir les choses ?
Je pense que l'échappatoire de Pontus a été aussi l'écriture et je pense que j'ai les mêmes conclusions et les mêmes appréciations que Pontus sur le travail à la chaîne. Après, Pontus, lui, il était intérimaire, il travaillait dans une usine de viande et moi, je travaillais dans la métallurgie et j'étais syndicaliste. Et après, il y avait le contexte de la fermeture de l'usine. Donc Pontus, à mon avis, quand il se levait, il allait faire sa journée de travail. Il se disait, il sublimait son travail parce qu'il n'avait pas d'espoir qu'il y ait eu une grève ou qu'il n'allait pas y avoir une fermeture d'usine. Alors que moi, au bout d'un moment, je faisais du syndicalisme. Je voyais quand même comment me battre contre le patron. Et après, quand il y a eu les rumeurs de fermeture, il y avait l'aspect de comment s'organiser pour ne pas se laisser faire et obtenir de partir la tête haute.
Et pourtant, vous êtes croisé un peu avec Pontus. Il s'est passé des choses assez étonnantes entre Cillien Larios et Pontus.
Oui, c'est assez drôle. D'abord, j'avais envoyé le manuscrit de la deuxième partie de l'usine aux éditions de la Table Ronde. Et quand j'ai envoyé les manuscrits aux éditeurs, il n'y en a pas beaucoup qui me répondaient. Ou alors, c'était des réponses types. Et la Table Ronde m'ont répondu qu'ils étaient intéressés par mon livre, mais qu'ils allaient déjà publier un livre similaire sur les usines. Et étant donné que c'était une petite maison d'édition, ils ne pouvaient pas se permettre de publier deux livres sur le même thème.
Et après, la deuxième fois ?
Et la deuxième, c'est malheureusement plus tragique. Quand j'ai reçu mon contrat d'édition, j'apprenais à la radio, en remontant chez moi, que la mort de Joseph Pontus.
Ah, ok. Venons-en maintenant au processus créatif. Comment te vient ton inspiration ? Comment t'organises-tu pour écrire ? Est-ce que tu écris de manière impulsive ? Est-ce que tu pèses tous les mots avec des ratures, en réécriture ? Enfonces-tu dans la douleur, pour reprendre l'expression consacrée, ou est-ce que ça te vient facilement ?
Je dirais les deux, mon général. Le premier jet, il est facile. Après, quand j'écrivais, tous les livres que j'ai écrits, j'ai pris des notes. Après, je les ai couchés dans l'ordinateur. Et après, j'ai quand même travaillé le texte, je vais dire comme un malade, pour que les phrases soient le plus épurées possible, avec le moins de mots possible. Quand j'avais, dans ma jeunesse, j'avais lu le livre d'Albert Camus, La Peste, il y avait un personnage, il m'avait fait rire. Je me disais, mais il est complètement fou, parce qu'il essayait d'écrire une phrase. Et il réécrivait à l'infini la phrase parce qu'il n'arrivait pas à faire qu'elle soit le mieux écrite possible. Et donc, au bout d'un moment, il faisait 20 pages avec la même phrase, des mots inversés ou des mots supprimés. J'avais trouvé ça drôle, mais quand j'ai écrit mes livres, j'ai vu que j'avais à peu près la même préoccupation que le personnage d'Albert Camus, c'est-à-dire construire la meilleure phrase possible.
Ok. Moi, j'en ai terminé pour mes questions. J'ai une dernière. Est-ce que tu as des projets pour le futur? Tu as des livres en cours?
Pour l'instant, j'ai des projets, mais ils sont secrets. J'en parlerai pas tant qu'ils ne sont pas concrétisés.
Ok.
Désolé.
Merci.
Alors, juste avant de clore, signaler peut-être que 30 ans de travail dans l'usine automobile et toujours pas le permis de conduire.
Maintenant, je l'ai, mais c'était un paradoxe. C'était un paradoxe. Ça a été un paradoxe pendant des années.
Et puis maintenant, vous travaillez... Alors, hier, j'ai compris le bruit, le boucan infernal de cette usine permanent. Et maintenant, vous êtes dans un musée de porcelaine.
D'art asiatique à Paris. Un musée d'art asiatique. C'est à côté du parc Monceau. C'est un changement radical de physionomie.
Alors, merci les Blaise, qui s'appelle Pascal dans cet ouvrage. Et Cilien, qui s'appelle José Luis Toribio. Vous redire que Roland sera sur les planches du Théâtre du Crochant avec le Bizarre du 4 au 8 novembre. Je vous recommande ce spectacle qui a remporté à l'unanimité la critique d'Avignon et que nous avons eu de la chance de voir à Malévo en travail. José Luis va dédicacer la tour de Malévo, l'usine, il y a Donde Esta Barcelone et nous allons nous quitter avec Pays d'usine, du chanteur franc-montagnard Félicien Lia, un compatriote.
Sur sa pointe d'aurore. Qu'importe qu'un enfant se taise lorsqu'on emporte ses parents ou disparaissent les Rohingyas ou les braises couvrent le sol. Qu'on tire une balle dans la tête des revendeurs à la sauvette de Mani ou de Caracas de tous les sniffers de pop. Rouge les lisières du Sahel, rouge les côtes italiennes, rouge le mur de Palestine, rouge la route de Kaboul. Le soleil sombre sur l'espoir iridescent, les jours se meurent dans la violence avant le noir, colère sur la terre et carrément.